Alexandra Viscardi.
Au Liban, le Parlement s'est réuni ce matin pour élire un président après plus de 2 ans de vacances du pouvoir. Une élection censée débloquer la crise politique. Le favori serait le commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun. Alors, Laure Stéphan, vous êtes au Parlement à Beyrouth et le premier tour de vote s'est avéré peu concluant.
Oui, effectivement, il n'y a pas eu d'élection de Joseph Aoun, même si plus de la moitié des voix de députés lui ont été destinées. Mais pour être élu dès le premier tour du scrutin, il lui fallait plus de 2/3 des voix. Les députés vont donc de nouveau voter en début d'après-midi. Plus de 30 députés ont voté blanc ce matin, une manière de dire que Joseph Aoun, même s'il est élu à un tour suivant, n'aura pas un consensus total. Et parmi les bulletins de vote écrits à la main, 2 députés ont ajouté les noms de l'émissaire américain au Liban et de celui de l'Arabie Saoudite, une manière de moquer les interférences étrangères dans cette élection. Washington, Paris et Riyad poussent pour l'élection de Joseph Aoun et ils ont fait passer le message « pas d'argent pour la reconstruction sans élection d'un président ». Ces influences étrangères ont aussi été dénoncées dans plusieurs prises de parole avant le vote, critiquées aussi le non-respect de la Constitution. Normalement, un chef de l'armée doit avoir quitté ses fonctions depuis 2 ans pour pouvoir accéder à la présidence.
Merci beaucoup Laure Stéphan, vous étiez en direct de Beyrouth. Une attaque russe à la bombe guidée a fait au moins 13 morts et 113 blessés dans la ville de Zaporijjia au sud-est de l'Ukraine. Les 2 engins ont endommagé des immeubles d'habitation et une installation industrielle ainsi que d'autres infrastructures comme ce tramway et ce bus qui transportaient des passagers. Le bilan pourrait encore évoluer négativement puisque 10 des 60 personnes hospitalisées suite à cette attaque sont toujours dans un état grave. La conférence des directeurs cantonaux des finances salue le bénéfice record de 80 milliards de francs de la Banque nationale suisse en 2024. Cela contraste bien sûr avec la perte enregistrée l'année précédente. Un résultat, Katia Scher, qui permet à la Confédération et au canton de recevoir une distribution d'environ 3 milliards de francs.
Oui, avec une répartition 1/3, 2/3, 1 milliard pour la Confédération, 2 milliards pour les cantons. Les collectivités publiques ont donc de quoi se frotter les mains, elles qui avaient été privées de toute retombée financière les 2 années précédentes, faute de réserves suffisante. 3 facteurs expliquent les excellents résultats de la BNS. L'envolée du prix de l'or, tout d'abord, 35% en 2024. Et comme la BNS a de solides réserves de métal jaune, eh bien son bilan en a profité. Ensuite, les effets de change ont joué en sa faveur aussi, grâce à la progression du billet vert. Ses réserves en dollars ont donc pris de la valeur. Et puis, dernière chose, les marchés financiers côté actions. 2024 a été exceptionnel. Et là aussi, ça s'est traduit par des dizaines de milliards de francs de bénéfices pour la BNS.
Merci beaucoup Katia Scher. Nous devrons probablement voter sur l'identité électronique. Le groupe Massfall vient d'annoncer qu'il lançait un référendum contre l'EID. Ce groupement avait déjà lancé en 2023 un référendum contre la prolongation de l'acte de certification Covid. Il s'oppose aussi à ce que les référendums et les initiatives ne puissent être signés qu'avec une identité électronique et non plus à la main. La grippe, les affections respiratoires et les accidents de ski ne mettent pas à l'épreuve que le réseau hospitalier neuchâtelois. L'hôpital fribourgeois aussi croule sous les malades. Ces derniers jours, les urgences ont enregistré 40 hospitalisations, soit près du double qu'usuellement. Le CHUV à Lausanne aussi sous tension. Il a demandé au canton de passer son dispositif cantonal de désengorgement de 3 à 4. C'est donc le niveau le plus élevé. Une mesure qui permettrait, entre autres, de faciliter le transfert de certains patients entre établissements et de reporter les interventions non vitales. Réponse attendue du canton pour la fin du mois. Et puis à Genève, les HUG disent avoir vécu cette surcharge, avoir prévu cette surcharge. Ils arrivent actuellement à l'absorber. Et dans ce marasme, eh bien, un hôpital s'en sort mieux que les autres, celui du Jura, grâce à une structure ouverte début août à Delémont, le Centre Médico Plus, un centre propriété de l'hôpital. Il joue parfaitement pour l'instant son rôle de médecine de premier recours. Gaël Klein, conséquence, l'hôpital évite la surcharge, il a même encore des lits à disposition.
Cette permanence médicale permet effectivement d'absorber une partie des urgences, en particulier les cas bénins. Il y a quelques semaines, l'hôpital avait d'ailleurs rappelé à la population jurassienne son existence. Objectif, anticiper l'afflux important durant les fêtes et l'impact des virus comme la grippe, dont les cas sont actuellement en légère baisse dans le Jura. Journée record le 3 janvier, plus d'une centaine de consultations, dont 1/3 à la permanence de Medico Plus. Pour l'instant, la nouvelle organisation répond donc aux attentes. Le médecin-chef du service des urgences de l'hôpital du Jura, le docteur Baroudi Erwan.
Pour cette année, j'ai envie de dire oui, on n'a pas eu cette
hausse attendue par rapport aux années précédentes suite au Covid. Je rappelle, après le Covid, on a remarqué que chaque année, on avait une hausse de 10%. Pour le moment, on garde les mêmes chiffres de l'année précédente. On est content, mais on reste aussi attentif sur l'évolution de l'activité au niveau de la permanence et aussi, on reste toujours vigilant par rapport à cette hausse d'activité.
L'hôpital du Jura dispose encore aujourd'hui de quelques lits. Le réseau hospitalier Neuchâtelois l'a d'ailleurs consulté quelques fois durant les fêtes pour savoir s'il pourrait absorber des transferts. Oui, a répondu Delémont, mais il n'a jusqu'ici pas reçu de patients neuchâtelois.
Et le canton de Neuchâtel a retenu 11 projets supplémentaires pour son programme Vivre Ensemble, lancé au printemps 2024 dans le cadre du plan climat cantonal. Des projets qui s'ajoutent aux 9 autres déjà sélectionnés l'été dernier. Ils recevront un soutien de 60 000 francs. Bottes et cirés indispensables encore cet après-midi, surtout sur le versant ouest du Bas-Valais où il pleut dru. La limite pluie-neige vers 1600 mètres va progressivement s'abaisser ce soir à partir du nord avec les dernières précipitations. 10 degrés au plus et toujours pas mal de vent. Il deviendra même tempétueux. Encore des nuages demain matin avec quelques précipitations à partir de la mi-journée. Et ce week-end, le temps va progressivement se remettre au beau, mais avec de la bise.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Les références, Julian Sykes.
Quatrième émission de la semaine consacrée au violoncelliste français Jean-Guyen Queyras. Aujourd'hui, les suites pour violoncelle de Bach. Et on va commencer avec une très belle sarabande tirée de la suite pour violoncelle numéro 4. Écoutez l'articulation, la finesse des inflexions, un peu comme s'il jouait de la viole de gambe. Bienvenue. Thank you. La sarabande de la quatrième suite pour violoncelle de Bach, jouée par Jean-Guyenne Queyras. Il y a ce mélange de rigueur et de sensibilité, des inflexions très proches de la viole de gambe, donc, qui sont la signature du violoncelliste français aujourd'hui. C'était sa seconde version au disque, enregistrée en octobre 2023 aux Pays-Bas. Queyras aime bien raconter que lorsqu'il était enfant, il adorait les maths, la logique, la construction. Il jouait aussi au Lego, comme beaucoup d'enfants de son âge, et c'est un peu cet esprit de matheux qu'il faut pour jouer Bach. Mais bon, ça ne suffit pas. On vient de l'entendre, il faut aussi une bonne dose de liberté, de musicalité. Queyras a eu la chance de rencontrer des maîtres qui ont éclairé sa lanterne, ou plutôt guidé sa main pour jouer les suites de Bach. Parmi ses maîtres, il y a Hanner Bylsma, un pionnier de la musique ancienne très connu pour le violoncelle baroque. Bylsma a été l'un des premiers à jouer Vivaldi et Bach en utilisant des cordes en boyau et aussi avec toute une réflexion historiquement informée. D'ailleurs, Queyras a beaucoup écouté ses enregistrements quand il était jeune. Il parle avec émerveillement d'un stage passé auprès d'Hanner Bylsma autour des suites pour violoncelle.
Une semaine consacrée uniquement aux suites de Bach. Et on passe cette semaine ensemble, on habite sur place, on dort sur place. Il y a juste comme ça Hanner Bylsma et ses quelques disciples. Donc on était une dizaine, peut-être une douzaine de jeunes violoncellistes. Et là, cette plongée dans ce regard tellement personnel et unique de Hanner Bylsma sur la musique de Bach, qui, je dirais, est un regard que je définirais comme ça. C'est quelqu'un qui avait une connaissance immense, mais qui ne l'utilisait jamais de manière dogmatique. Mmh. C'est-à-dire que pour lui, la connaissance, c'était uniquement au service de la vie. Et donc, de quoi aussi parfois de la facétie et aussi du moment et de la découverte sur le moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, d'ailleurs, dans son enseignement, il racontait souvent des petites anecdotes. On avait l'impression d'un grand-père qui nous racontait des petites histoires. Et donc, quelque part, entre guillemets, il ne se prenait pas au sérieux, ou en tout cas, il nous faisait croire ça. Mais ce dont je me suis rendu compte très rapidement, dès les premiers jours, c'est que derrière ce côté apparemment anecdotique et joueur, on s'est rendu compte que derrière, il y avait une vraie perception de l'essentiel de cette musique de Bach. Qui justement réunit tout. Oui, il y a l'architecture, il y a la construction, il y a l'esprit, il y a la mathématique, il y a la logique, etc. Et puis, il y a aussi Bach le bon vivant, Bach le facétieux, Bach le... etc. Et surtout, que le dogmatisme, que le dogme est l'antithèse de la vie, quelque part, aussi en musique. Il nous apprenait, je vais essayer de prendre un exemple concret, mais si vous aviez un même passage qui revenait dans deux tonalités différentes, par exemple au cours d'un prélude ou d'une danse, eh bien, il allait mettre un point d'honneur à dire « Mais non, pourquoi est-ce que vous croyez que vous devez absolument faire le même coup d'archet ?»« Ah oui, ah, c'est exactement la même succession de notes, donc on fait le même coup d'archet. » Mais justement pas. La différence, l'improvisation. Et puis surtout, il construisait son interprétation, et c'est ce qu'il nous transmettait. Les outils dont on dispose en tant qu'interprète, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire le rubato, c'est-à-dire l'agogique, c'est-à-dire prendre du temps ou au contraire donner du temps, avancer ou au contraire faire un rubato, etc. Tendre des temps, tout ce dont on a besoin pour faire vivre la musique, et ben tout ça, c'est basé, absolument ancré sur le discours harmonique. Et comment est-ce que, et c'est ça qui est un petit peu le secret alchimique des suites pour violoncelle de Bach, c'est que l'harmonie et la mélodie sont absolument indissociables. Bach, volontairement, mélange les deux. Parfois, c'est comme des tours de passe-passe qu'il fait. On ne sait plus. Est-ce que c'était une mélodie? Est-ce que c'était en fait l'harmonie? Et c'est là-dessus que Bylsma a attiré notre attention et qui nous a fait comprendre que c'est là-dessus qu'on allait pouvoir faire nos choix interprétatifs et vraiment créer notre propre langage de Bach. Donc moi, j'ai découvert mon univers de Bach grâce à Hanner Bylsma. Ce que j'ai trouvé fascinant, et pardon, je parle parce que je suis fasciné par ce personnage, oui. C'est que quelques années plus tard, je rencontre Yo-Yo Ma, qui m'a énormément inspiré dans ma jeunesse, que je trouve toujours inspirant. Quel personnage, quel charisme. Eh bien, on a été amené, je ne sais plus pourquoi, à parler d'Hanner Bylsma. Et il a dit, mais Hanner Bylsma a complètement renversé ma compréhension du monde musical. Pour moi, d'entendre Yo-Yo Ma dire ça, dire qu'une rencontre avec Anner Belsma, ça l'avait complètement... que tout d'un coup, il avait vu la musique différemment. Et je me suis complètement reconnu d'abord dans cette phrase. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'un de mes grandes idoles avait vécu la même chose, quelque part.
Thank you.
Jean-Guyen Queyras, dans cette interprétation magnifiquement intériorisée des gavottes 1 et 2 de la 5e suite en ut mineur de Bach. On entend ici la variété des inflexions, une conduite des phrases qui n'est jamais métrique, toujours animée par une pulsation intérieure. Jean-Guyen Queyras a beaucoup promené les 6 suites pour violoncelle dans les salles de concert. Il les a interprétées dans le cadre d'un spectacle de la chorégraphe flamande Anne-Theresa de Kersmecker. On y voyait 5 danseurs et danseuses, y compris elle-même, évoluer autour du violoncelliste qui se positionnait de différentes manières dans l'espace. C'était une mise en miroir de la danse et de la musique avec des consonances et des dissonances. Ce spectacle, intitulé « Mitten wir im Leben sind » a circulé dans plein de salles, y compris à la Comédie de Genève en septembre 2023. Queyras a joué ses suites sur son violoncelle Gioffredo Cappa de 1696 en utilisant en alternance des cordes en métal et des cordes en boyau, donc chaque fois des montages différents. Il emploie aussi un archet baroque. Mais la question de l'authenticité en musique est beaucoup plus ouverte qu'on l'imagine. Il cite l'exemple du chef d'orchestre Nicolas Arnoncourt qui dirigeait des formations sur instruments modernes en y insufflant l'esprit des instruments d'époque.
Lui, le grand précurseur, bien entendu, du mouvement baroque, etc. Et à la fin de sa vie, il dirigeait des orchestres qui jouent sur instruments modernes, comme le Concertgebouw d'Amsterdam ou alors le Chamber Orchestra of Europe. Et il disait, vous savez, en fin de compte, ce qui est important, c'est pas l'instrument sur lequel vous jouez, c'est la manière dont vous le jouez. Mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va être important, c'est la compréhension du langage du compositeur et quels sont les déterminants pour donner tout le potentiel de vie au langage de ce compositeur. Alors oui, il y a notamment, grâce aux cordes en boyau, on va découvrir certaines particularités de diction, de transparence sonore, grâce à l'archet baroque aussi. Les consonnes, les voyelles ne vont pas résonner de la même manière que sur un instrument monté moderne. Et donc ça, ça va nous permettre de découvrir certains pans un compositeur qu'on n'aurait peut-être pas trouvé sur un instrument moderne. Maintenant, dans ma démarche, dans mon parcours, c'est finalement assez fluctuant. Je donne un exemple. Voilà, j'ai eu la possibilité d'enregistrer Haydn sur corde en boyau avec le Freiburger Baroque Orchestra. J'ai dit, banco, ça, ça va être une expérience extraordinaire. Même chose avec les concertos de Vivaldi avec l'Académie für Alte Musik. Formidable. Redécouvrir Schumann sous un autre univers sonore, grâce aux cordes en boyau, grâce à la collaboration avec le Freiburger Baroque Orchester et un piano d'époque de Alexander Melnikov, tout ça, ça a été vraiment extraordinaire.
Le final du troisième trio en sol mineur de Robert Schumann. On l'écoutait par Alexander Melnikov sur un piano à queue historique. Il y avait aussi la violoniste Isabelle Faust et le violoncelliste Jean-Guyen Keras jouant sur des cordes en boyau. Alors voilà qui donne à entendre Schumann au plus près de son époque. Mais Keras n'est pas dogmatique sur la question des instruments d'époque. Il a gardé un esprit ouvert, il passe allègrement des instruments d'époque aux instruments modernes, quel que soit leur répertoire. Et ça donne des résultats inattendus, souvent très enrichissants. Jean-Guyen Keras.
Je pense que si votre sens de la couleur, de l'harmonie, etc. a été éduqué par le travail aussi sur les cordes en boyau, vous allez ensuite, sur un instrument moderne, retrouver ça. Et quelque part, c'est ce que Nicolas Sarnoncourt nous disait en disant la phrase que j'ai évoquée tout à l'heure. Mmh. Donc voilà, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Ma vie, ça a été ça. Ça a été de parfois faire des répertoires anciens, jouer Maramarais sur piano et violoncelle moderne. Par contre, jouer Schumann sur cordes en boyau pour se rendre compte que Schumann, eh bien, il y a cet héritage, ça vient de Bach. Schumann était fasciné par Bach, il regardait énormément vers les grands maîtres du passé, et on entend ça à travers un autre instrumentarium. Je trouve que c'est très intéressant. Donc ça peut paraître paradoxal. Pour moi, c'est, je dirais pas que c'est paradoxal. Ce sont des expériences qui, justement, sont quelque part, sont un peu en miroir.
La courante de la deuxième suite pour violoncelle de Bach jouée par Jean-Guyenne Queyras. On entend ce jeu qui a du grain, une façon de modeler le son qui fait penser une fois de plus à de la viole de gambe. Queyras a enregistré ces deux intégrales des suites pour violoncelle de Bach sur le même instrument, un violoncelle Gioffredo Cappa de 1696. Difficile de choisir, à vrai dire, entre sa première version de 2007 et celle de 2023. Elle se complète et à certains endroits, on dirait presque qu'il joue sur deux instruments différents. J'ai choisi la première version pour la suite numéro 3 qu'on va écouter intégralement. C'est une suite en ut majeur qui est très solaire et on peut y admirer des sonorités pleines et rondes tout en restant dans la finesse. Ça, c'est la grande qualité de Jean-Guyenne Queyras. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
La gigue de la troisième suite pour violoncelle de Bach qu'on écoutait intégralement par Jean-Guyen Queyras. C'était sa première version enregistrée en mars 2007 à Sulzbourg dans le district de Fribourg-en-Brisgau. On referme le chapitre Bach pour aujourd'hui, mais si vous souhaitez approfondir la question, je vous renvoie à un excellent livre d'entretien. Dans ce livre, Jean-Guyen Queyras partage sa vision des suites de Bach et dialogue avec le musicologue Emmanuel Rebel. Ça s'appelle Bach, les suites en partage, et c'est paru aux éditions Première Loge. On va se quitter avec du baroque, Vivaldi cette fois-ci, un concerto pour violoncelle enjoué. Jean-Guyen Queyras est accompagné par l'Académie für Alte Musik de Berlin. Thank you. On se quitte sur ces extraits d'un concerto de Vivaldi joué par Jean-Guyen Keras et l'Académie für Alte Musik de Berlin. On arrive au bout de ce quatrième volet d'une série de 5 émissions consacrées aux violoncellistes français. Demain, nous l'écouterons dans un bouquet de pièces de musique de chambre avec ses amis musiciens. Je remercie Gilles Ozaman pour sa réalisation et je me réjouis de vous retrouver au plus vite dans les références. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 13h, tout de suite le journal.